Et c'est le journal de Kevin Dufraîche. Bonjour Kevin.
Bonjour à tous.
À la une ce matin, le projet de loi sur la gestion de la crise sanitaire, toujours bloqué à l'Assemblée nationale. Les députés ont étudié à peine un quart des amendements hier, alors que le gouvernement espérait une adoption dans la journée. Les discussions mouvementées hier soir vont donc se poursuivre aujourd'hui. Les autres titres, Kevin.
Et parmi les mesures contenues dans ce projet de loi, l'élargissement du pass sanitaire aux restaurants, entre autres les restaurateurs qui ne seront pas chargés de vérifier l'identité de leurs clients. Soulagement, nous serons à Lyon. Le Covid qui booste le soutien scolaire, les demandes ont bondi de plus de 50% chez certains acteurs du secteur. À la une également, les suites du féminicide de Mérignac. Le policier qui avait pris la dernière plainte de la victime venait d'être condamné pour violence conjugale. L'ouest du Canada en proie aux flammes, des milliers de personnes évacuées en Colombie-Britannique. Et une question à la fin de ce journal, est-ce facile de prendre la route des vacances en voiture électrique?
Les invités de la matinale de France Inter à 7h50, l'extension du pass sanitaire, l'obligation vaccinale, constitue-t-elle, oui ou non, des atteintes à nos libertés individuelles? Nous poserons la question à Patrice Pinozzi, avocat au Conseil d'État et spécialiste des questions de liberté publique. Et puis à 8h20, Gabriel Attal sera dans le grand entretien. Face au variant Delta, faut-il déjà prendre des mesures supplémentaires? Lesquelles et dans quel département? On fera le point sur la situation sanitaire avec le porte-parole du gouvernement. Vos questions, vos réactions au 01 45 24 7000, le standard est ouvert.
France Inter.
Des échanges électriques et des esprits qui s'échauffent tard dans la soirée et finalement la fin de la récré sonnée par le président de séance vers minuit. L'examen du projet de loi anti-Covid qui comprend l'obligation vaccinale pour les soignants et l'extension du pass sanitaire ne s'est pas exactement passé comme prévu à l'Assemblée nationale hier. Résumé d'une longue journée avec Claire Flochel.
Le gouvernement espérait que l'examen du projet de loi serait terminé même tard dans la nuit. Mais la discussion du texte va donc se poursuivre ce matin, cet après-midi et ce soir. Voilà les termes employés par le vice-président de l'Assemblée pour lever la séance. Il faut dire qu'en 7 heures de débat, seuls 300 amendements ont été examinés, comme le souligne la députée socialiste Lamia El-Haraj.
Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'a pas avancé. C'est-à-dire que là, à l'heure où on s'est arrêté, il reste à peu près 900 amendements. Voilà, ça donne un peu une idée de la précipitation dans laquelle on travaille. Un calendrier qui est complètement bousculé.
Le député LREM du Doubs, Éric Alauzet, reconnaît des échanges animés.
Je pense que tout le monde est un peu fatigué. C'est pas le rythme qu'on a habituellement à l'Assemblée nationale. Et bon, ça frustre un peu les députés. C'est pour ça que l'ambiance est un peu électrique.
Temps de parole réduit au strict minimum, texte rédigé à la hâte. Caroline Fiat, députée insoumise, s'en agace dès l'après-midi.
Il faut réagir à la dernière minute. Gouverner, c'est prévoir. Ça ne s'improvise pas.
Le soir, les esprits s'échauffent sur la question de la vaccination obligatoire. Philippe Vigier, député Modem d'Eure-et-Loir.
Madame Bonnaire, je vais vous dire, moi j'ai perdu mon frère, médecin de la réserve sanitaire et du Covid. Si vous êtes anti-vax, je m'en fiche. Et je vous en prie, pas ces propos-là.
Et pour le moment, la seule modification au texte a été de préciser que le pass sanitaire pour les déplacements internationaux ne sera demandé qu'aux plus de 12 ans.
Claire Flochel, entre deux solutions mauvaises, le confinement et le pass, je choisis le pass, a dit hier soir à l'Assemblée Olivier Véran pour justifier la mesure la plus controversée, le pass sanitaire élargi aux trains, aux bars et aux restaurants à compter de début août et un léger assouplissement annoncé par Jean Castex hier. Les patrons de bars et de restos devront certes contrôler le QR code mais pas l'identité de leurs clients. Un soulagement, exemple à Lyon, Mathilde Lamberti.
Pas de contrôle d'identité en plus du pass sanitaire. C'est un soulagement léger d'abord pour certains clients vaccinés.
Ouais, là ça aurait été un beau border là. C'est une politique d'incitation qui est un peu sévère. Ouais.
Et sur la terrasse du Pignouf, quartier de la Guillotière, le patron Geoffrey Clavel entrevoit les prochaines semaines de manière plus sereine pour son personnel 13 salariés.
On va faire du contrôle à table par les chefs de rang, dans leur rang respectif, avant de prendre les commandes, à la cool, salut, ça va, vous connaissez les dernières normes, on va faire un petit check de vos passes sanitaires. Il faut compter 20 secondes avec l'application par client, ça va nous faire gagner du temps, c'est sûr, et ça va sans doute un peu désenvenimer le débat avec nos clients sur ce pass sanitaire.
Des contrôles moins fastidieux. Mais en contrepartie, la fraude est facilitée. Oui, certains clients présenteront le pass sanitaire de quelqu'un d'autre. Ce professionnel rodé ne se fait aucune illusion.
C'est une certitude. Là où on est soulagé, c'est que les amendes sont plus qu'elles ont été annoncées. Puis on fait aussi porter la responsabilité de la fraude au client. C'est lui qui est responsable.
Et, voilà. Et la fraude n'est pas du tout tabou dans les discussions, assure cette jeune Lyonnaise.
Plusieurs personnes autour de moi qui se posent la question de dépenser 300 balles pour acheter un QR code. Ouais. Enfin, j'ai l'impression que c'est acté en fait, qu'il y aura de la fraude et... et que c'est facile.
Le pass sanitaire obligatoire dans les bars et restaurants, entrée en vigueur début août. Lyon, Mathilde Imberti, France Inter.
Le pass sanitaire bientôt partout et pour tous, et dans certains départements, le retour du masque en extérieur. C'est le cas dans l'Hérault, en Vendée ou encore en Meurthe-et-Moselle. L'objectif affiché de ces mesures pour le gouvernement reste d'inciter fortement les Français à se faire vacciner. Objectif 50 millions de premières doses d'ici fin août, a dit Jean Castex hier. Le nombre de cas quotidiens continue de grimper en flèche. Plus de 21 500 recensés hier. Les contaminations ont bondi de 140% en une semaine. La crise sanitaire, elle a modifié notre vie quotidienne à beaucoup de niveaux et perturbé les plus jeunes, notamment à l'école. Conséquence, les cours de soutien scolaire sont plébiscités cet été. Chez Acadomia, un des leaders des cours particuliers en France, les inscriptions ont bondi de 35%. Julie Pietri, vous avez suivi un stage de remise à niveau à Montrouge, près de Paris. 2 heures de cours par jour durant une semaine.
Qu'est-ce que c'est qu'une probabilité ?
Dans la classe, 4 élèves qui jouent les prolongations pour préparer déjà l'arrivée en terminale.
C'est pour améliorer mes résultats l'année prochaine.
Lucas, 17 ans.
Moi, personnellement, j'ai dû louper 2 semaines de cours parce que j'étais cas contact. Et j'ai ressenti le besoin du coup de retravailler derrière et du coup de venir ici.
Son professeur de maths.
P2A plus P2A bar moins P2A inter à bar.
Chedli Getita, qui travaille aussi pour l'éducation nationale, a vu cette année les besoins de soutien de ses élèves augmenter.
C'est très 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 compliqué. Et même le niveau des élèves. Et malheureusement, parfois, il y a pas mal de parties de cours qui a été sautées ou qui s'est passé vite fait, où on a envoyé des documents. On pensait que l'élève il va relire ça tout seul, c'est pas vrai.
Dans cette agence, les inscriptions sont en légère progression en ce début d'été et cela va aller crescendo, précise Linda Rondet, directrice des centres du secteur.
On a une vraie demande sur les stages d'été. Les familles sont quand même un petit peu inquiètes de l'évolution et donc demandent des remises à niveau. Et là, on a une demande par anticipation cette année où on a déjà des classes de cours collectifs qui sont complets pour la rentrée de septembre et surtout la période du 23 août au 27 août.
Juste avant donc la rentrée scolaire.
Reportage signé Julie Pietri.
France Inter 7h07, la suite du journal de Kevin Dufraîche.
C'était il y a 2 mois et demi à Mérignac, près de Bordeaux. Chaïnès Daoud, 31 ans, mère de 3 enfants, était brûlée vive en pleine rue par son mari violent, contre qui elle avait plusieurs fois porté plainte. Hier, nos confrères du Canard Enchaîné dévoilaient que le policier qui avait pris sa dernière plainte 1 mois avant le drame venait lui-même d'être condamné pour violence sur sa compagne. Une information que vous avez pu confirmer, Mathilde Lemaire.
La condamnation date du 10 février dernier. 8 mois avec sursis. Le policier avait aussi obligation de soins pour un problème d'alcool et interdiction d'entrer en contact avec son ex-compagne. Une condamnation pour violence habituelle sur conjoint entre juin et septembre 2020. La police nationale précise qu'une enquête administrative avait été ouverte dès le dépôt de plainte par l'épouse du policier. Le fonctionnaire avait été enlevé de la voie publique, affecté donc au service des plaintes, en contact notamment dans son travail quotidien avec des femmes victimes de violences conjugales. Il avait été renvoyé devant un conseil de discipline, mais ce conseil à ce jour n'a toujours pas eu lieu. Ce drame de Mérignac, des faits commis par un multirécidiviste, avait suscité une vague d'indignation, une mission d'inspection avait été désignée. Son rapport, le mois dernier, pointait notamment du doigt un doute sérieux sur le soin apporté par le policier qui avait enregistré la plainte. Il n'est pas précisé qu'il avait lui-même été condamné en justice pour violence conjugale. Sollicité, le ministère de l'Intérieur se refuse à tout commentaire.
Les précisions de Mathilde Lemaire, une pratique humiliante, dégradante, dénonce ce matin 6 ONG qui saisissent le Conseil d'État pour faire cesser les contrôles aux faciès. C'est une information France Inter. Ces ONG rappellent que contrôler quelqu'un sur la base de caractéristiques physiques est totalement illégal. Dossier complet sur le sujet à lire sur franceinter.fr. Au Canada, la maison continue de brûler. L'état d'urgence est déclaré en Colombie-Britannique. La province de l'Ouest est touchée par plus de 300 feux actuellement et les ordres d'évacuation se multiplient. Et des milliers de personnes quittent depuis hier leur logement potentiellement menacé par les flammes. Sur place, au Canada, la correspondance de Pascal Guéricola.
Des centaines d'habitants de localités de Colombie-Britannique ont dû quitter rapidement leurs habitations cernées par les flammes ces derniers jours, tandis que des milliers d'autres se tiennent sur un pied d'alerte, prêts à évacuer leur maison en quelques minutes. Comme l'explique une responsable des équipes de secours à Kamloops, interrogée par Radio-Canada, les pompiers étudient attentivement la météo.
Nous surveillons les vents très forts qui soufflent dans le secteur car ils contribuent à changer rapidement leur direction
et à les attiser.
La pluie se fait attendre depuis parfois plus d'un mois dans le sud de la Colombie-Britannique, pourtant une région habituellement assez humide. La proximité des incendies inquiète Sue McCartoff, qui dirige la localité touristique d'Ozoyous dans la vallée d'Okanagan. Interrogée par Global News, elle fait cette mise en garde aux voyageurs.
Il vous faut planifier votre hébergement avant de partir. Allez-vous dans un hôtel ou dans un camping? Vérifiez leur disponibilité avant même de partir. Ne venez pas ici sans réservation en pensant que tout va bien, parce qu'actuellement, tout ne va pas bien.
Des renforts de pompiers venus d'autres provinces canadiennes, mais aussi des États-Unis et du Mexique, doivent arriver dans les prochains jours en Colombie-Britannique. À Québec, Pascal Guéricola, pour France Inter.
À la veille de la cérémonie d'ouverture, la France entre dans la danse olympique. En football, les Bleus démarrent leur compétition aujourd'hui face au Mexique. Coup d'envoi à 10h, heure de Paris. Tokyo, où le directeur artistique de la cérémonie d'ouverture vient d'être démis de ses fonctions en raison d'une blague de mauvais goût sur l'Holocauste, issue d'un de ses anciens spectacles qui refait surface ces dernières heures dans plusieurs médias japonais. Enfin, Karine, je vous emmène sur la route des vacances ce matin avec ce nouveau week-end de grand départ qui se profile. Certains font le choix de tenter le voyage en voiture électrique, même sur de longues distances. C'est possible, mais le problème est toujours le même. On ne trouve pas aussi facilement des bornes de recharge que des stations essence. Pourtant, cet habitant des Yvelines rencontré par Rémi Brancato retente l'expérience pour le deuxième été d'affilée.
Christophe Deloye a garé sa voiture, une Tesla Model 3, devant sa maison, tout près de la prise.
On branche, et là, on met dans la prise de la voiture. Vous voyez tout de suite au tableau de bord du véhicule que la charge démarre.
Et c'est à bord de cette berline, 4 à 600 km d'autonomie, qu'il partira sur la Côte d'Azur. En août, son GPS a tout calculé.
Cavalaire-sur-Mer, c'est à 935 km d'ici. 10h35 de trajet, 3 arrêts de charge à chaque arrêt, 20-25 minutes.
Alors Tesla a son propre réseau de recharge rapide et globalement pour les autres marques, prévoir les arrêts, c'est la principale contrainte, avec souvent des bornes trop lentes, reconnaît Christophe. Il est aussi membre de la Fédération française des associations d'usagers de véhicules électriques.
Quand il y a 800, 900 km, là il faut des bornes rapides. C'est là-dessus que les choses vont évoluer et sont en train d'évoluer. D'ailleurs, Total est aussi en train d'installer des bornes rapides sur ces stations traditionnelles.
L'an passé, Christophe n'a presque pas eu de problème, si ce n'est au sujet de l'emplacement des bornes.
Quand on est sur des bornes qui rechargent en une heure et demie pour reprendre 100 ou 150 km, c'est quand même bien d'être près d'un point de visite, soit un point de course. Il a fallu que je fasse l'année dernière un détour de 30 km pour recharger dans un endroit où il n'y a rien d'autre à faire que d'attendre qu'on charge.
Pour la nuit, il avait été prévoyant et il avait sélectionné des gîtes et des hôtels où des prises, même à charge lente, sont accessibles près des parkings.
Rémi Brancato, l'électrique a donc quelques contraintes, mais les vacances, ça sert aussi à recharger les batteries, n'est-ce pas?
Exactement, Kevin Dufraîche. À tout à l'heure, 9h.
À tout à l'heure.